philosophique de la personne par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 21 décembre 95. Cinquième conférence.
La recherche de la vérité oblige le philosophe, l'homme philosophe, d'aller toujours plus loin. On ne peut jamais s'arrêter. C'est ça qui est merveilleux, du reste, parce qu'on voit qu'il y a dans l'intelligence une capacité d'aller toujours plus loin dans l'ordre de l'extension et surtout dans l'ordre de la pénétration. Et donc, il faut que le philosophe se pose cette question, toujours par rapport à l'homme. Qu'est-ce qu'il est dans son existence propre, dans son être propre, pas seulement dans sa vie, pas seulement dans son corps, mais ce qu'il est. Que j'ai de moi-même, c'est au-delà de ma vie. Tous les vivants n'ont pas conscience qu'ils vivent. Évidemment, c'est difficile de savoir ce qu'un chien a conscience quand il vous regarde avec des yeux baignés de larmes. Ça arrive, des bons toutous, ils sont comme ça. Alors on a envie de les caresser. Ils ont conscience de quoi ? J'en sais rien. Il y a un lien affectif, instinctif. L'homme peut prendre conscience qu'il est, qu'il existe. Je peux dire je suis. Cogito ergo sum. C'est intéressant, du reste, à partir de ça, on a essayé de réfléchir sur le je suis. Parce que ce n'est pas la même chose. Je suis travaillant. Je suis aimant. Je suis coopérant. J'ai un corps. Et d'une certaine manière, je suis dans mon corps. C'est comme ça que je suis dans le monde. Je suis dans mon ami. Et mon ami est en moi. Je vis. Je suis un être vivant. Mais ma vie est limitée. Que ma vie telle que je la vis maintenant, elle disparaîtra. Parce que je vis avec mon corps. Et je l'aime. Moi, je tâche de l'aimer le plus que je peux. C'est un bon compagnon. De temps en temps, il me fait des tours. Puisque je peux être enrhumé, je peux être grippé, je peux attraper tous les microbes possibles. Je suis un être vivant. Et la mort me pose la question. Est-ce que je serai anéanti par ma mort ? C'est une question importante quand même. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aborder la métaphysique par là. Est-ce que je serai anéanti ? Parce que mon exister aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que la conscience que j'ai de mon exister. Quand je dors, même pas de dormir. Les grandes personnes, elles sont fatiguées. Alors elles aiment de dormir. Quitter tous les soucis, puis se plonger dans un nirvana qui ne durera pas très longtemps, mais quand même. Puis quand on le réveille le matin, oh, je passe ce moment délicieux. De rien. Je comprends que c'est pas drôle d'avoir conscience. On a conscience de ses responsabilités, on a conscience de tous les liens qu'il y a, on a conscience de ce qu'on doit faire. C'est lourd. C'est pas commode. Alors quand ça dépasse, aujourd'hui on a un terme merveilleux pour dire ça, on a un ras-le-bol de la conscience. Je crois que c'est ce que Freud a compris, on en a un ras-le-bol de la conscience. Alors, il y a un inconscient qui est là et qui est fond. Me dire, moi, je peux me reposer. C'est l'être vivant qui se repose. C'est l'être vivant qui s'endort. Mais, normalement, ma spiritualité, c'est que je dors pour être éveillé. Il y en a qui ont une spiritualité inverse. Ils sont éveillés pour pouvoir dormir. C'est peut-être très important de se poser de temps en temps la question, parce que là, on touche notre finalité. Oui, examen de conscience philosophique avant d'entrer en métaphysique. Est-ce que vous êtes éveillé pour dormir? Alors, on vous fait faire une session de philosophie pour mieux dormir. Vous pouvez mettre ça, tu vois. Pour inviter les gens qui ne dorment difficilement, venez à la session philosophique pour dormir. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes couché hier, pas trop tard, pour être de bonne humeur ce matin, bien éveillé, et écouter, et penser, et réfléchir. Oui, c'est très simple ça. C'est une expérience à laquelle Aristote revient tout le temps. J'aime beaucoup ça, c'est ça, ce son réalisme. Tous les jours, je me réveille, je crois. Et quelquefois, plusieurs fois par jour. Si on suit des cours de philosophie, quelquefois, plusieurs fois par jour. Parce qu'on s'endort. Un tout petit sommeil, mais quand même. Puis on se réveille. Tiens, je suis là, tiens. Oui, oui. On passe du sommeil au réveil. C'est une grande expérience. Et autant que possible, il faut être parfaitement conscient de ça. Pour être vraiment éveillé. Alors évidemment, quand on sait que c'est une journée dure, je dois faire 4 cours ce matin, aujourd'hui. Là, on se réveille en disant pire. Je dois écouter, parce que c'est encore plus pénible les faire. On fait, je dis pas ce qu'on veut, mais quand même, tandis qu'on n'écoute pas ce qu'on veut, alors c'est plus facile d'être de bonne humeur pour faire des cours que d'être de bonne humeur pour les écouter. Il faut une très grande confiance pour être de bonne humeur. Il faut un climat. C'est ce que Socrate disait. Avant de parler, es-tu mon ami ? Si tu es mon ami, je peux parler. Si tu n'es pas mon ami, je ne parle pas. Et c'est vrai que pour la philosophie, il y a une espèce de confiance constante. On crée un climat de confiance, d'amitié intellectuelle, ce qui est très important. Donc, la question se pose, qu'est-ce que je suis dans mon être ? Alors, il y a tout de suite un dialogue important à voir. Quel est le commencement de ma métaphysique ? Le point de départ. Il faut être très sensible au point de départ. Dès qu'on doit faire un cheminement, il faut savoir d'où on part. C'est important. On fait ça tous les jours quand on prend le train ou quand on part en auto. On sait d'où on part. Et on on sait aussi où on va. On n'est pas encore arrivé. Tandis qu'au point de départ, on sait d'où on part. Eh bien, il y a deux points de départ de la philosophie première. S'il fait la philosophie première en Europe, dans le monde d'aujourd'hui, comme en Amérique, je suis ceci. C'est intéressant parce que ça a été le partage des eaux des deux philosophies. Philosophie première. Il faut mieux dire philosophie première aujourd'hui plutôt que métaphysique. J'aime mieux parce que la métaphysique, Heidegger a dit qu'elle était enterrée. Et il a tout de suite mis après ontologie fondamentale. Donc, il ne faut quand même pas trop charrier. Hein. Parce que à la place de mettre métaphysique, il met ontologie fondamentale. Je crois que c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que la philosophie, philosophie première, tout le monde l'accepte. Husserl parle de philosophie première. Et Heidegger, en parlant d'une ontologie fondamentale, parle encore d'une philosophie première. C'est pour ça que, pour ne pas froisser les oreilles pieuses, j'aime mieux dire mais philosophie première que métaphysique. Vous savez que le mot métaphysique, ce sont les bibliothécaires. Oui, les bibliothécaires qui l'ont mise. Fichier matière. Aristote ne parle pas de métaphysique. Aristote parle de philosophie première. C'est pour ça que tous les puristes parlent de philosophie première. Métaphysique, c'est venu plus tard. C'est quand tous les livres d'Aristote étaient perdus qu'on les a retrouvés. On a vu qu'il y avait énormément de livres sur la philosophie, sur les physiques. Puis on a vu après un livre qui dépassait la physique. Alors on dit métaphysique après la physique. Alors on dit métaphysique après. C'est pour ça qu'au fond ce terme, je n'y tiens pas du tout. Saint Thomas l'a pris parce que c'était courant. C'était l'usage. Et aujourd'hui, qui a eu Heidegger, qui a dit qu'il fallait faire un enterrement de première classe de la métaphysique avec les grosses caisses. Alors on remplace la métaphysique par ontologie fondamentale. Alors disons tout simplement, pour ne pas entrer dans les querelles, philosophie première, le terme d'Aristote. La philosophie première, pour Aristote, regarde ce qui est. En tant qu'il est, le tout on est on. Ce qui est ens en latin in quantum ens ens ce qui est en tant qu'il est. Alors on dira c'est la philosophie première, regarde l'être. Alors, ce qui est en tant qu'il est, j'aime mieux dire ce qu'il est en tant qu'il est que l'être. Et dans le langage courant, on dira l'être, parce que l'être, c'est quand même abstrait. Vous n'avez jamais touché l'être, moi non plus. Tandis que ce qui est, oui, ceci est. Et puis en vous regardant, vous êtes aussi, vous existez. Tu vois, je parle devant des êtres existants, j'espère. N'est-ce pas ? Ce qui est, en tant qu'il est. Donc, c'est regarder l'être. L'être, c'est l'infinitif de est, le présent. Oui, alors on retrouve blanc blancheur. Hein ? C'est curieux, vous retrouvez blanc blancheur. Le présent, c'est immédiat. immédiate, l'infinitif, la forme, l'infinitif, c'est être. L'infinitif, c'est prendre le verbe d'une manière substantielle comme un nom. Donc c'est simplement une manière de regarder ce qui est. Vous le, dans un langage philosophique moderne, on dira qu'on thématise l'être, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on le pose devant nous, comme ce qu'on va regarder. Vous voyez ? Alors, tout simplement, comprenez que le présent et l'infinitif ont la même signification. La même signification. Ce qui est, la signification de ce qui est en tant qu'il est, c'est la signification de l'être. Et quelle est la signification de l'être ? Alors, c'est pour ça que je me pose la question. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que la forme de la forme substantielle de ce verbe être apparaît dans l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et quand vous dites qu'est-ce que c'est que l'être, nécessairement vous pensez l'être. Si votre interrogation est une interrogation forte, et si vous êtes vraiment pris par cette interrogation, oui, et c'est ce que Heidegger a très fort senti, que c'est dans l'interrogation qu'on thématise l'être, que l'être est regardé pour lui-même. Bon, ceci, petite remarque, qui est toujours intéressante, parce que très souvent, on s'arrête là-dessus. Bon, alors, on peut dire, je vous l'ai déjà dit, la philosophie première pour Aristote commence à ceci est. La philosophie première, à partir de Descartes, commence par je suis. Ça, c'est intéressant à voir. C'est très simple. Parce que c'est une philosophie de l'esprit. Et l'esprit se donne dans je suis. Je suis un être intéressant et unique au monde. Chacun d'entre nous peut dire ça. Je suis. Ceci est. Ah, il n'y a rien de plus anonyme d'une certaine manière. Ceci est. Toute la différence entre le « je » et le « ceci ». Et ça, c'est quand même très important. Cette petite phrase d'Aristote, que j'aime beaucoup. Quand il y a une erreur au point de départ, ou une confusion, pas nécessairement une erreur, une confusion, il y a une très grande différence au terme. Tous les Suisses savent la source du Rhône et du Rhin. Parce que c'est la grandeur de la Suisse d'avoir la source du Rhône et du Rhin. Et donc de dominer le Rhône et de dominer le Rhin quant à sa source. Et on fait un pèlerinage, oui, un pèlerinage, pour regarder la source du Rhône, la source du Rhin. On voit que c'est pas loin. Alors, source du Rhône, source du Rhin, Rhône, 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 et source du Rhin. C'est pas loin, c'est très proche. Mais au terme, une immense différence. Je suis égal. Là, Aristote. Alors mettez Thomas d'Aquin, et puis les disciples de Thomas d'Aquin, philosophie réaliste. C'est très curieux ça, mais c'est très intéressant. Parce que c'est toujours ce point de départ. Si je veux comprendre la différence entre la philosophie hegelienne et une philosophie réaliste, remontons à la source. L'un commence à je suis et l'autre commence à ceci. Alors vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est par ceci est, et non pas par je suis. Mais il faut comprendre que toute la métaphysique est ordonnée du ceci est au je suis. Le dernier moment de la métaphysique, ce sera de préciser je suis pour comprendre la personne humaine au niveau de l'être. Tandis que si je commence par le je suis, je ne pourrai jamais rejoindre ceci. Vous savez, quand on veut préciser deux expressions très proches l'une de l'autre, on essaie de comprendre comment l'une contient l'autre et que l'autre ne contient pas la première. Vous voyez ? Un, deux. Historiquement, c'est comme ça. Aristote, Descartes. Et Descartes est conscient qu'à un moment donné, il le dit lui-même, je tourne le dos à Aristote. Donc il est très conscient. Alors, moi je suis après Aristote et après Descartes. Aristote est grec. C'est le point de départ. Merleau-Ponty, quand il a fait une grande synthèse de toute la philosophie européenne, considère les Grecs comme les sources. Admirablement, du reste. C'est un gros livre et très intéressant. Je voyais ce très gros livre dans une trappe où je prêchais. J'ai dit au père de Lyon, les trappistes n'ont pas besoin de ça. Permettez-moi de l'emporter. Le père de Lyon, oui, prenez-le, prenez-le. Ça servira à quelque chose. Tandis que ça ne sert à rien du tout. Et c'est vrai, c'est intéressant de voir quelqu'un comme Merleau-Ponty qui a ponctué tout le développement philosophique. Et les deux grands moments, on ne peut pas nier, c'est Aristote, Descartes, si on regarde la philosophie hegelienne. Hegel donne un coup de chapeau merveilleux à Aristote et il dit que Descartes est le point de départ. Ah, il dit textuellement, Hegel dit textuellement, on ne peut se former à la pensée philosophique qu'avec Aristote. Et cependant, il dit, Descartes, c'est le point de départ de la philosophie européenne. Donc pour lui, c'est plus proche, c'est vrai, c'est un point de départ plus proche. Mais le vrai point de départ, c'est ceci est. Pourquoi ? Parce que ceci est contient je suis. Et je suis ne contient pas ceci. Vous voyez, c'est ça qui me semble important. Alors précisons. Ceci est à l'immense avantage que je ne m'attache pas à ceci. À ceci. Si je regarde ceci est d'un point de vue logique, d'un point de vue de la parole, le verbe est relatif au nom. C'est vrai. Le verbe être est relatif au nom. Ceci est. Et je constate aussi que, au fond, le ceci peut être n'importe quoi. Tout ce qui est. C'est évident. C'est tout ce qui est. Tandis que le je, c'est pas du tout ce qui est, tout ce qui est. C'est unique. C'est moi. Je suis. Et je suis unique au monde. Je suis pas dans une série. Il y a quelque chose en moi qui est unique au monde. C'est vrai, on pourra pas me remplacer, voulez-vous. C'est déjà quelque chose de dire ça. Quelquefois, ça nous repose beaucoup. Tandis que si vous dites je suis, c'est le on. Le on banal. On peut le remplacer celui-là. C'est la série, ceci. Alors, ceci est un immense avantage. C'est que je ne m'attache pas à ceci. Et que, en réalité, quand je pense, négatif ou non. Dans la pensée, c'est l'inverse. Alors mettons ça en rouge. En réalité, c'est comme ça. Le ceci est relatif à elle. La preuve, c'est que ceci, ça peut être la vache. Ça peut être la table. Ça peut être parce que c'est Raïssa, l'épouse de Maritain, qui a eu un jour cette sorte d'intuition. Elle appelle ça l'intuition de l'être. Que le chat, son petit minet, qui est là, il existe, et qu'elle aussi existe. Elle a vu qu'il y avait un œcuménisme radical dans l'être. Alors elle a embrassé son chat, il existe. Et le chat l'a embrassé, et elle existe. L'œcuménisme dans l'ordre de l'être. C'est vrai, ça. Alors ça, c'est quoi? C'est justement que le ceci est relatif à elle. Et ce qui est important, c'est que le ceci existe. Il me manifeste l'être. Comme moi, je manifeste aussi l'être. Et que chacun d'entre vous manifestez l'être. La réalité prend des figures très différentes. Toutes les réalités existent. Et donc, si je cherche ce qu'est l'être en tant qu'être, je dois partir du ceci et pour que je puisse découvrir être et dans toute sa force, puisque le ceci ne fait que limiter et pour saisir et dans toute sa force, je me sépare du ceci et je thématise et en disant qu'est-ce que c'est que l'être. Oui, ce passage de l'expérience d'une réalité singulière à quelque chose de beaucoup plus profond. Je dis, qu'est-ce que c'est que l'être? Je comprends que Heidegger a été saisi, mais profondément saisi, par l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Pensez l'être. Et c'est vrai que dans l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? On pense l'être, du moins plus ou moins profondément. On pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, le passage de « et » à « être », la forme abstraite et le concret au niveau du verbe « être ». Blanc, blancheur. Et je pose la question, qu'est-ce que c'est que la blancheur? Et je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je suis parti du mur blanc, de la neige blanche, d'un visage blanc. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Qu'est-ce que c'est que l'être? Voyez, l'interrogation formalise. Elle met en pleine lumière. C'est ça, thématiser. C'est formaliser. C'est isoler, séparer le « et » du « ceci » pour ne regarder que « et ». Alors je prends la forme infinitive, l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? En réalité, c'est comme ça qu'on devrait dire. Chaque fois qu'on parle de l'être, on devrait toujours interroger qu'est-ce que c'est que l'être? Parce que je ne peux parler de l'être en réalité que sous une forme interrogative. Qu'est-ce que c'est que l'être? Tandis que le présent, je dis ceci est. Je touche la réalité. Tandis que si je pars de « je suis », alors est-ce que je peux faire la même chose? « Je suis », oui. Le verbe « être » étant donné à « je suis » grammaticalement. Mais la pensée, puis-je séparer l'être du « je » dans l'expérience que j'ai quand je dis je suis? Je ne peux pas séparer l'être de moi quand je dis je suis, parce que je suis seul à avoir cette expérience unique du je suis. C'est très important, ça. J'ai une sorte d'expérience intérieure de l'être. Mais c'est mon être que je saisis de l'intérieur. Tandis que ceci est l'être de la table, je la vois de l'extérieur. L'être de la vache, je la vois de l'extérieur. Intuition qu'il y a quelque chose de commun dans toutes ces affirmations. Ceci est, la vache est, la table existe, Raïssa existe. Il y a, à travers ces diverses relations, ces diverses manières de regarder ceci est, il y a quelque chose de commun. Et c'est ce quelque chose de commun qui est l'intuition. Elle dit l'intuition de l'être. Non, c'est que être s'attribue à tout ce qui est. Tandis que quand je dis je suis, j'ai une expérience intime, personnelle, de mon exister. Et cette expérience, je sais que je suis seul à l'avoir. Je voudrais bien avoir l'expérience du chien qui existe. Mais comment le chien existe-t-il? Et puis mon voisin ou ma voisine, elle dit aussi « je suis ». Si je dis « je suis original » en disant « je suis », elle dira tout de suite « moi aussi je suis original » en disant « je suis ». Et nous nous regarderons en disant « où est-ce que le « je suis » est plus parfait ? Est-ce que c'est dans ma voisine ou en moi ?» C'est quand même important. Savoir si c'est moi qui dis je suis le plus parfait. Ou bien si c'est au contraire celui qui est assis à côté de moi, qui a une expérience beaucoup plus intime du je suis que moi. On pourra discuter sans s'étendre. Parce que c'est personnel. C'est individuel. C'est unique. Je ne peux pas comparer mon je suis au je suis d'un autre. Il est autre. Le je suis de l'autre est autre que le mien. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, cette petite distinction. Mais c'est montrer que commencer par le « je suis » ne me permet pas de connaître vraiment l'être. Je le connais toujours à travers ma pensée. Et c'est pour ça que Heidegger reste fixé à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» parce qu'il parle du « je suis ». C'est très curieux, ça. Parce que si je pars du « je suis », je reste devant l'interrogation. Qu'est-ce que l'être de moi ? Qu'est-ce que c'est que mon être ? Alors, est-ce que vous pouvez dire que l'être vous appartient ? Allons jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez dire que l'être vous appartient ? Si l'être vous appartenait, vous ne mourriez jamais. Mon être, c'est mon esprit et c'est mon corps. Et c'est le lien entre les deux. C'est ça mon être. Je vis dans mon corps, je vis dans ma conscience, dans mon intelligence, dans ma pensée. Je suis dans mon corps et je suis dans ma pensée. Et donc, si mon être m'appartient, si c'est vraiment mon être, ça m'appartient. Mais je ne mourrai jamais. Alors on pourrait dire, oui, mais vous allez vieillir, et vous allez devenir gâteux à ce moment-là, vous n'avez qu'un seul désir, c'est de mourir. Oui, mais si mon être était mon être, je ne vieillirais pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. Je vieillis, je subis des tas de choses. D'attraper des microbes, le microbe de la grippe. Alors je jette Et c'est vrai, c'est que mon être, il est limité. Il ne m'appartient pas. J'existe. On ne m'a pas demandé la permission d'exister. J'existe. Comment ça s'est fait? Ah, je peux remonter. Oui, mais... c'est quand même quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est quand même mystérieux. Hein. Voyez-vous, toucher tout de suite à quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvons immédiatement expliquer. C'est pour ça que la philosophie première est si importante. Parce que devant ce qui est, en tant qu'il est, je suis obligé de reconnaître que ça dépasse mon avoir. Alors, dans une culture de consommation, on ne parle que de son avoir, que de ses richesses. On est un drôle d'individu, hein. C'est-à-dire, c'est nécessaire qu'il y ait cette réflexion sur l'être, qui ne m'appartient pas. L'être, mon être, je veux savoir ce qu'il est. Et pour savoir ce qu'il est, je suis obligé de revenir à ceci est. Et en réfléchissant sur ceci est, pour connaître ce qu'est l'être, je pourrais au terme dire, tiens, ceci est, il n'y a qu'un seul être qui m'est tout proche, que je peux saisir de l'intérieur. C'est mon être, je suis. Voyez, toute l'analyse que je vais faire en métaphysique sur ce qu'est l'être, nous la ferons très rapidement, hein, parce que c'est toute la métaphysique là, qu'on secoue. Mais ce que je voulais, c'est vous faire comprendre ces deux commencements que nous voyons dans notre philosophie européenne. Aristote, pré-européen, et Descartes, typiquement européen. Parce que la philosophie, même aujourd'hui, on discute avec Descartes. Husserl a repris les méditations cartésiennes. On peut en Sorbonne faire un cours sur Descartes cet admis, sur Thomas d'Aquin, sur Aristote, oui, aujourd'hui on peut. On peut. Parce qu'on revient aux sources. Sans doute parce qu'on est en face d'une philosophie qui ne sait plus très bien ce qu'elle est et qui va dans tous les sens. Alors quand on est devant une sorte d'anarchie, on revient aux sources. À quel moment y a-t-il eu déviation? Pourquoi je ne sais plus où je vais? Alors on revient à la source. Et c'est le mouvement actuel de revenir à la source. Alors il y a deux sources. Heidegger dira que toute la philosophie européenne est une glose de Platon. Mais lui ne veut pas être platonicien. Il veut son originalité. Mais il juge toute la philosophie européenne comme une glose de Platon. Mais Heidegger sort de Platon. Il n'aime pas Platon. Alors qu'il est notre Platon moderne. C'est vrai. C'est que vous regardez Heidegger, vous voyez que c'est notre Platon moderne. Notre Platon du je suis. À ce point de vue-là, il est très intéressant parce qu'il veut retrouver l'être. Il veut retrouver une expérience particulière et sui generis de l'être. En ce sens-là, c'est vrai. Il dépasse tous les autres philosophes. Il veut redécouvrir ce que c'est que l'être. Et pour redécouvrir ce que c'est que l'être, il montre l'importance de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est pour ça que Heidegger nous oblige à revenir à Aristote. Et Heidegger revient à Aristote. Et n'hésite pas. Il revient tellement bien à Aristote qu'il n'aime pas beaucoup les mots qu'on traduit Aristote. Il aime de reprendre le langage d'Aristote. Il a raison, d'une certaine manière, pour redécouvrir originalité profonde d'un philosophe, il ne faut pas négliger son langage. Parce que le langage exprime sa pensée. Donc, la métaphysique, point de départ, ceci est. Et on interroge, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et j'entre en philosophie première par l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et c'est ça la grande interrogation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être ? Pour nous, en philosophie réaliste, on revient à l'expérience. Quand vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que la blancheur ? Vous revenez à l'expérience du mur blanc, du visage blanc, de la neige blanche. Hein, vous revenez à ça. C'est vrai, quand il y a un rayon de soleil sur la neige, vous dites, quel éclat ! Vous découvrez ce que c'est que la blancheur. Non, vous découvrez le blanc de la neige. Mais vous plafonnez tout de suite, vous idéalisez tout de suite. Vous dites, qu'est-ce que c'est ? Quelle belle, c'est la blancheur. J'ai découvert ce que c'est que la blancheur quand j'ai vu toute une plaine avec le soleil sur la neige. C'est vrai, c'est esthétiquement, je suis tout à fait d'accord. C'est étonnant. Un paysage de neige avec le soleil, un glacier. On a parlé des neiges éternelles. Ça prouve que justement, on veut idéaliser le blanc de la neige. C'est la lumière. Je veux rester, moi, réaliste. Quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je reviens à mon expérience pour saisir dans mon expérience, non pas le ceci, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas la métaphysique pour savoir ce que c'est que la vache. Non. J'aime mieux renvoyer ça à la science biologique de la vache. Pour savoir si elle a un estomac ou deux estomacs, ça fait quand même quelque chose de très particulier quand on a deux estomacs. T'es sûr ? Parce que on réfléchit mieux. Et la table, elle existe aussi. Je reviens à l'exister de la table, à l'exister de la vache, mais sous le point de vue de l'être. Et j'analyse ce qui est l'être, c'est-à-dire qu'est-ce qui est premier dans l'être. Voilà l'analyse, l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce qui est premier dans l'être ? Et je découvre à ce moment-là, ce qui est premier dans l'être, ce sera, je le mets en grec à la manière de Heidegger, l'ousia. L'ousia, qu'on a traduit en latin substantia, substance. Et c'est pour ça que Ricoeur, quand il enseignait à la Sorbonne, ne mettait pas substance, il mettait étance. Pour retrouver l'étymologie grecque, ousia, le touon, ce qui est. Pour retrouver l'être dans l'ousia, il mettait étance. Et le mot étance n'est pas français. J'aime bien que le philosophe peut employer des mots non français. Hein, bon. J'aime mieux revenir au grec. Ousia, c'est un mot grec. Ousia, c'est ce qui est premier dans l'être, au point de vue de sa détermination. C'est la source de toutes les déterminations. Toutes les réalités qui me sont données sont déterminées. Même moi, je suis déterminé. J'en ai déterminé. Alors, quelle est la source de toutes les déterminations ? Qu'est-ce qu'il y a de premier dans leur détermination ? Ce sera l'ousia, la substance. Voyez que le latin est dangereux. Je dis ça pour les latinistes. Il est dangereux pour la métaphysique. Le latin est une langue beaucoup plus juridique. Le grec n'est pas une langue juridique. C'est une langue poétique et philosophique. Ça, c'est vrai. Le grec est une langue admirable. Parce que c'est beaucoup plus poétique. se tenir en dessous. Substance, substare, ce qui se tient en dessous. Tandis que Ousia, c'est pas du tout ce qui se tient en dessous, c'est la source. On dira qu'une source est toujours cachée, donc elle est ce qui se tient en dessous. Ce qui est vrai, il y a un petit quelque chose. C'est, voyez, la question du lieu. La substance, elle est cachée, elle est invisible. Quelle est ma substance? C'est mon âme. C'est mon âme spirituelle. C'est vrai, c'est mon âme spirituelle. Si je regarde la substance pour moi, dans mon je suis, c'est mon âme. Nous y reviendrons à ça. Puis, le second principe qu'on recherchera dans cette métaphysique de l'être, c'est découvrir non plus la source de toutes les déterminations, mais c'est de découvrir ce qui est la fin, la finalité de l'être. Et on dira l'être en acte. Voilà les deux principes de la philosophie, de la métaphysique, de la philosophie première, l'ousia et l'être en acte. Et l'être en acte, c'est la fin. Telos. Telos, la fin. Ce qui finalise l'être. Ce pourquoi l'être est. Il est pour être en acte. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je reviendrai un instant là-dessus pour que vous ne cherchiez pas la solution pendant la messe.